Chapitre 7. Le nid d'aigle. On entendait sur la montagne une voix retentissante chanter un air joyeux. Ce devait être quelqu'un de bonne humeur et plein de courage. C'était Rudy. Il allait trouver son ami Vézinan. « Il faut que tu m'aides, lui dit-il, ainsi que Ragli a enlevé l'aiglon qui perche là-haut sur la pointe du rocher. « Ne veux-tu pas aller d'abord arracher les yeux à la lune ?» repartit son camarade. « Ma foi, tu es un plaisant farceur. »« Gai, je le suis, oui, sans doute, surtout depuis que je songe à me marier. Mais, très sérieusement, il me faut cet aiglon, et voici pourquoi. » Et il conta à ses amis ce qui s'était passé. « Tu es un gaillard par trop téméraire, » dirent-ils. « Ce que tu veux entreprendre est simplement impossible, tu te romperas le cou. »« On ne tombe pas, » dit Rudy, « à moins qu'on ne craigne de tomber. » Vers midi, ils se mirent tous trois en marche, avec de longues perches, des échelles et des cordes. Ainsi chargés, ils traversèrent les bois, franchirent les buissons, passèrent par-dessus les blocs de rochers. Ils montèrent, jusqu'à ce qu'il fût nuit. On entendait le grondement du torrent dans la vallée et le bruit des cascades sur la montagne. Les chasseurs approchaient du roc tout à pic où se trouvait le nid. La nuit était noire, le ciel nuageux. Ils étaient engagés dans une anfractuosité entre deux parois de rochers. À peine si d'en haut, il leur tombait un filet de lumière. Enfin, après mille fatigues, ils s'arrêtèrent au bord d'un précipice au fond duquel mugissait un torrent. Les trois compagnons étaient silencieux. Ils attendaient que le jour vînt à poindre. C'est à ce moment que la mère de l'aiglon quittait le nid pour aller en chasse. Il fallait la tuer avant de songer à s'emparer de son petit. Rudy s'était posté un genou en terre, ramassé sur lui-même, immobile, comme s'il eût fait partie du roc contre lequel il s'appuyait. Il tenait sa carabine dirigée vers le creux du rocher où se trouvait le nid. Ses yeux ne cessaient de fixer ce point. Les chasseurs attendirent longtemps. Enfin, un cri strident, un sifflement aigu se fit entendre au-dessus d'eux. Le peu de lumière qu'ils recevaient d'en haut fut obscurci par un objet qui nageait dans l'air. C'était l'aigle noir qui allait chercher la pâture de son petit. Un coup de feu retentit. Les larges ailes de l'oiseau roi battirent un instant l'air, puis restèrent immobiles, toutes étendues. L'animal, blessé à mort, descendait lentement, comme soutenu par un parachute dans le précipice. On entendit le craquement des branches des buissons qu'il cassait dans sa chute. Alors, on se mit alertement à l'œuvre. On lia ensemble les trois plus longues échelles, pensant qu'elles atteindraient jusqu'en haut. On les fixa à l'extrémité du rebord, à quelques pas du précipice, là où le pied pouvait encore s'appuyer avec sûreté. Mais elle n'arrivait pas jusqu'au sommet. Du point où elle parvenait jusqu'au nid, le roc était lisse comme un mur. Comment faire? Après avoir réfléchi et discuté entre eux, les chasseurs résolurent d'attacher ensemble deux autres échelles et d'aller par en haut les descendre au-dessus du vide pour les réunir ensuite aux trois autres. On les porta sur le pic avec bien des peines et on les lia l'une à l'autre avec de fortes cordes. Les voilà qui se balancent au-dessus du précipice, dépassant le rocher qui abritait le nid. Rudy descendit lestement et en un instant fut sur le dernier échelon. La matinée était glaciale, des bouffées d'épais brouillards sortaient du sombre abîme. Rudy ressemblait à une mouche qui se balance sur un brin de paille agité par le vent ou à un oiseau qui bâtit son nid au bord d'une haute cheminée. Mais l'oiseau et la mouche peuvent s'envoler et Rudy ne pouvait que se rompre le cou. Le vent s'élevait, il faisait osciller les échelles. Au fond du précipice, comme pour l'étourdir, résonnait le sinistre fracas des eaux qui ruisselaient des palais souterrains de la Vierge des Glaces. Sans se troubler, Rudy imprima aux deux échelles un mouvement de va-et-vient. Il imitait l'araignée qui, suspendue au bout d'un long fil, se balance avant de sauter sur son ennemi. À la troisième oscillation, il saisit l'extrémité des trois échelles plantées en bas et, d'une main robuste et ferme, il les rattacha aux deux autres. Les voilà donc toutes les cinq liées ensemble, dressées droites contre le roc, mais ne paraissant pas plus solide que le jonc qui plie au gré du vent. Restait maintenant la partie la plus périlleuse de l'entreprise à accomplir. Il fallait grimper les échelons, se sentir vaciller au-dessus d'un gouffre de plusieurs milliers de pieds de profondeur. Mais Rudy avait retenu les leçons du chat, son premier maître. Le vertige, qui voltigeait dans l'air derrière lui, eut beau étendre les bras comme un polype pour le saisir, Rudy ne sentit même pas sa présence. Il arrive au haut de l'échelle, tout près du nid. Il peut l'apercevoir, y atteindre de la main, mais c'est tout. Sans hésiter, il tâte les branches des épais buissons qui forment le nid de l'aigle. Il en trouve une résistante et solide. Il la saisit et s'élance d'un bond. Le voilà, la moitié du corps engagé dans le creux du rocher. Une odeur infecte de charogne le prend au nez et à la gorge. Il y a là tout un amas de restes pourris d'agneaux, de chamois, d'oiseaux de toute espèce. Le vertige lui soufflait au visage cette puanteur pour le troubler. Au fond du gouffre, la Vierge des Glaces en personne braquait sur lui ses yeux ardents. On aurait dit l'antique tête de Méduse. « Je te tiens !» dit-elle avec une joie féroce. Rudy ne la voyait pas. Au fond du nid, il aperçut l'aiglon, qui était déjà fort et redoutable, quoiqu'il ne sût point encore volé. Rudy, le fixant du regard, d'une main se cramponna de toutes ses forces à la branche, de l'autre, il jeta sur l'animal un nœud coulant ou lacet qu'il avait apprêté. La corde s'enroula autour des pattes de l'aiglon. Rudy l'attira et lança corde et bête par-dessus ses épaules, de sorte que le jeune oiseau de proie se trouva séparé de lui d'un bon bout de la corde qu'il s'attacha autour du corps. Puis, ressaisissant la branche de ses deux mains, il fit tant que ses pieds se retrouvèrent sur l'échelle dont il empoigna le montant d'un mouvement brusque et sûr. « Tiens ferme, ne pense pas que tu vas tomber et tu ne tomberas point. » C'était ce que le chat lui avait enseigné. Il s'en souvint, ne lâcha pas prise, descendit sans crainte. Alors retentit un chant de victoire entonné par une voix forte et joyeuse. Rudy était de retour sur le roc solide et tenait captif et bien vivant le bel aiglon.